Monsieur Paul Ricoeur, doyen de la faculté des lettres de Nanterre, dont j'ai présenté les ouvrages la semaine dernière, nous parle des sources philosophiques de Freud. Monsieur Ricoeur nous a parlé la dernière fois de la philosophie de l'inconscient. Il va nous parler aujourd'hui de la philosophie de la culture. Freud est un médecin et un psychologue, en somme. Pensez-vous, monsieur, qu'en se préoccupant de problèmes philosophiques, il soit sorti du domaine de sa compétence?
Aucunement, car le premier contact de Freud, psychanalyste, avec l'inconscient de ses malades, le met immédiatement en face d'un problème de culture, et pas seulement d'instinct ou de pulsion. De culture, puisque chaque homme naît d'un père et d'une mère, c'est-à-dire non seulement dans une relation de dépendance biologique, mais dans une situation culturelle. L'organisation de la famille, la structure de la famille, la disposition de l'autorité, l'exercice de l'autorité, et déjà cette toute première interdiction que constitue la prohibition de l'inceste, tout cela fait que, dès le début, nous sommes devant un problème de culture. Alors, votre question m'amène à corriger l'impression qu'a pu donner notre premier débat, à savoir que nous avons surtout insisté sur la nature, le respect de la nature, le retour à la nature. Nous disions la dernière fois, il faut remettre la conscience dans la vie dans la nature. Mais aujourd'hui, nous avons à considérer l'autre volet, puisque nous sommes plutôt en face d'un conflit entre la nature et la culture, entre d'une part la vie profonde des pulsions humaines, puis d'autre part des institutions, et non seulement des coutumes mais des règles et des interdictions. C'est avec l'interdiction que tout de suite l'instinct humain cesse de ressembler à l'instinct animal pour devenir un instinct humain qui appelle un nouveau nom, celui qu'en français on lui a donné, la pulsion. Et je crois que ce changement de nom de l'instinct traduit bien cette situation absolument nouvelle d'être en situation culturelle.
La dernière fois, vous nous signaliez, monsieur, que l'attitude de Freud était au départ assez négative vis-à-vis de la philosophie classique, la philosophie universitaire. Et est-ce que l'élaboration de son œuvre, cette confrontation avec les problèmes de la culture, a influé sur sa position philosophique?
Inéluctablement, la rencontre de problèmes de culture comme la signification de l'art, la signification de la morale, la signification de la religion, l'amène sur un terrain, celui qui a été traversé par toutes les grandes philosophies. Et son rapport immédiatement ne sera plus aussi négatif, il va être en débat véritablement avec toute la tradition philosophique. Je prendrai simplement un exemple, le plus criant, si je puis dire. Lorsque, au début du siècle, il tente de réinterpréter les travaux ethnologiques de son temps concernant les origines de la morale et de la religion, dans son grand livre « Totem et tabou ». Inéluctablement, il se trouve piétiné, si j'ose dire, le terrain foulé par les grandes philosophies concernant la nature du problème moral, l'origine de l'éthique. Par exemple, dans Totem et tabou, lorsque il tente d'expliquer l'origine de l'interdiction, en comparant l'interdiction morale avec le tabou qu'il découvre dans les civilisations primitives, c'est une véritable réinterprétation de toute la philosophie kantienne qui est en jeu. Puisqu'à ce moment-là, l'obligation morale, avec son cortège d'interdictions et de menaces, n'est plus auréolée de raison, de rationalité, comme dans la philosophie kantienne, mais se trouve plongée dans le drame du rapport de la pulsion humaine avec une instance qui interdit. Et du même coup, tout ce que la philosophie morale présente comme étant tout à fait clair, tout à fait transparent, comme le « tu dois » du devoir kantien, s'obscurcit, car nous n'apercevons donc à la surface de la conscience que des rationalisations. Il faut retrouver derrière ces rationalisations des conflits extrêmement profonds. Pour ma part, je proposerai même de dire que ce débat avec Kant sur l'obligation morale, sur l'interdiction, le remet dans la proximité d'un très grand philosophe, dont il parle peu d'ailleurs, Nietzsche. Je dis qu'il en parle peu car Freud a toujours pressenti que Nietzsche avait déjà fait, avec d'autres ressources, ce que lui entreprenait de faire. Je dis d'autres ressources puisque Nietzsche partait véritablement d'une réflexion sur la culture, d'une réflexion sur la crise de la culture, sur ce travail de destruction qui se poursuit dans la culture moderne sous le nom du nihilisme. Alors, Freud côtoie tout cela, mais avec d'autres moyens qui sont justement ceux de l'étude du rêve et de la névrose. Alors, il y a là une convergence entre Nietzsche et Freud, que sans doute Freud a toujours connue, mais qu'il n'a pas trop voulu explorer, de crainte, au fond, d'être, j'oserais dire, gêné par Nietzsche. Nietzsche avait déjà travaillé sur un terrain que lui-même, avec les ressources de la psychiatrie, venait un peu, je dirais presque avec des gros sabots, foulé, alors que Nietzsche, avec l'extraordinaire raffinement d'une philosophie de la culture, avait porté un degré critique et un degré, en somme, de virulence critique que Freud retrouvait par Totem et Tabou et par toute sa philosophie de la culture. Alors, je pense qu'il y a un Nietzsche refoulé chez Freud, un Nietzsche, disons en tout cas, interdit, qu'il faut déterrer du texte d'apparence beaucoup plus médicale de Freud.
Freud se voulait avant tout homme de science. Cependant, on a pu lui reprocher, à propos de Totem et Tabou, de s'être livré là à une construction arbitraire. Serait-ce sa position philosophique qui l'aurait influencé?
Si l'on considère tout cet ensemble de travaux paramédicaux qui représentent son interprétation de la culture, Totem et Tabou, L'avenir d'une illusion, Malaise dans la civilisation, Moïse et le monothéisme, je crois qu'il faut aborder ces œuvres avec un esprit critique très acéré. Pour ma part, je dirais qu'il faut distinguer trois couches dans cette œuvre. Il y a d'une part des analogies bien fondées avec l'expérience psychanalytique. Freud a vu, en somme dans les grosses lettres de l'histoire de l'humanité, ce qu'il lisait dans les petites lettres de la névrose infantile ou juvénile. Alors, il y a une extrapolation si on veut, mais le génie de Freud, c'est d'avoir aperçu cette correspondance entre, par exemple, le complexe d'Édipe qu'il observait et qu'il reconstruisait chez ses malades, et puis ce qu'on pourrait appeler un gigantesque complexe d'Édipe de l'humanité. Alors là, il y a un travail qu'on peut appeler scientifique, puisque l'analogie est aussi un mode de la découverte scientifique. Bon, alors, il y a une chose. Et en outre, il y a, recouvrant, en somme, cette première alluvion, une deuxième couche d'alluvion, qui est alors l'influence d'un courant philosophique qu'on peut dire très largement évolutionniste, darwinien. Freud appartient à une génération de pensée pour laquelle l'évolution des mœurs est de même structure finalement que l'évolution de la vie. Les lois darwiniennes de l'évolution des espèces vivantes nous permettent de reconstruire avec le même fil conducteur les lois de l'évolution historique et culturelle. Alors là, c'est peut-être la partie la plus fragile de l'œuvre de Freud, tout ce qui est d'emprunt darwinien. Et puis alors, plus fondamentalement que cela, représentant une troisième couche, je dirais qu'il y a alors le mythe freudien. Ce n'est pas du tout, je dirais, contre Freud que je parle de mythe freudien. Non seulement ce n'est pas contre lui, mais c'est une reconnaissance profonde de son œuvre, de ce qui se passe dans son œuvre, bien au-delà des analogies médicales, bien au-delà des emprunts à Darwin, il y a cette vision fondamentale qui s'exprime dans un mythe scientifique qui est un mythe du XXe siècle. On connaît ce fameux mythe, n'est-ce pas, la reconstruction d'un début de l'humanité où le père cruel de la horde aurait été tué par ses fils. Les fils se réconciliant entre eux par le moyen d'un pacte pour ne pas répéter la tyrannie du père, puis se réconciliant avec l'image du père pour intérioriser cette image et en faire finalement un dieu. Alors là, il y a une sorte de lecture au centre de l'histoire humaine que Freud a lui-même confondu avec une histoire vraie des origines. Mais justement, par une histoire qui est probablement invérifiable par des ressources scientifiques, nous avons au contraire une sorte de dire philosophique et poétique sur l'origine de l'homme. En ce sens, on peut dire que c'est un mythe vrai. C'est-à-dire un mythe qui, si nous le pensons profondément, nous permet de nous reconnaître nous-mêmes.
Est-ce qu'à votre avis, les dernières théories de Freud ont un rapport étroit avec la philosophie de Nietzsche ou avec la philosophie romantique ?
Je le croirais volontiers si nous laissons guider simplement par les nouveaux mots, les nouveaux grands mots de la dernière philosophie de Nietzsche. Dans les premiers écrits, disons tous ceux qui sont antérieurs à 1920, à ces ouvrages qui marquent un grand tournant dans la pensée de Nietzsche, au-delà du principe de plaisir, le moi et le ça, nous voyons apparaître des termes comme eros, là où il avait dit instinct, pulsion ou libido, il dit eros. Il appelle aussi la nécessité de la vie, la dureté de la vie avec laquelle nous devons lutter. Ananke, mot grec pour dire la nécessité, mot qui par conséquent le replonge par-delà le romantisme de la philosophie allemande dans la tragédie grecque et par-delà la tragédie grecque chez les présocratiques. Qu'est-ce en effet qu'Eros pour les présocratiques ? C'est essentiellement un principe unitif. Je lis dans « Au-delà du principe de plaisir ». C'est ainsi que la libido de nos instincts sexuels correspondrait à l'éros des poètes et des philosophes. Et il ajoute à l'éros qui assure la cohésion de tout ce qui vit. Il y a là, autour de ce texte, toute une auréole de poésie et de méditation. Vous avez remarqué qu'il parle très positivement ici des philosophes, l'éros des poètes et des philosophes, et il ajoute à l'éros qui assure la cohésion de tout ce qui vit. Or, c'est ainsi, n'est-ce pas, que les présocratiques, que Empédocle, que Héraclite parlaient de l'amour comme ce qui fait tenir toutes choses ensemble. Et alors Freud, du même coup, par-delà le scientisme, si vous voulez, de ces concepts, je dis le scientisme lorsqu'il parle de l'appareil psychique, de la régulation de l'appareil psychique, du conflit de plusieurs principes qui règlent l'appareil psychique, il parle tout d'un coup un autre langage. Ben, il y a là le surgissement, en somme, d'une autre langue. Derrière la langue de la science, c'est la langue des présocratiques. Eros, qui assure la cohésion de tout ce qui vit. Et du même coup, la mort, qu'il n'appelle certes pas Thanatos, c'est nous qui continuons à faire du grec sur la lancée de Eros et Ananke, ben, la mort apparaît aussi comme une grandeur quasi mythologique, puisque dans le même texte et dans d'autres textes, il parle de la vie et de la mort, pas d'Eros et de la mort, comme de deux géants, comme des forces immortelles qui se disputent l'empire de la puissance sur l'homme. Par conséquent, il y a là une dramatisation, par-delà tout l'appareil scientifique, par-delà toute la technique, c'est un mot freudien aussi, la technique psychanalytique, il y a quelque chose qui casse en quelque sorte le règne de la technique pour faire apparaître ce conflit des géants. Et alors, du même coup, cette nature dont nous parlions la dernière fois, ce n'est pas la nature brute, ce n'est pas la nature biologique, mais c'est celle, justement, dans laquelle s'affrontent Eros et la mort, et qui apparaît marquée par la mort comme étant cela qui, dans la nature, doit être reconnu au prix d'un renoncement. La nature, ce n'est pas le donné immédiat, c'est au contraire ce qu'il est dur de reconnaître, puisqu'il faut avoir renoncé aux fantasmes liés au principe du plaisir pour accéder à la difficile discipline du principe de réalité, pour découvrir alors la nature, cette nature qui est vraiment à la mesure même du conflit d'Eros et de Thanatos.
En somme, la démarche de Freud qui était plutôt scientiste au départ, semble s'infléchir peu à peu vers la philosophie. Et certains ont dit que la philosophie de Freud est un pessimisme. Pourtant, il me semble que la notion d'Eros n'implique pas un pessimisme fondamental. Quel est, à votre avis, l'aspect de sa philosophie sur ce plan?
Je crois que le pessimisme est de la note dominante. Je m'explique concernant le pessimisme. Freud a, me semble-t-il, été toujours fasciné par un phénomène fondamental de la vie humaine, mais celui-là même que lui présentaient ses malades, c'est la répétition. Le fait que l'adolescence nous replace dans des situations du premier âge, et que l'homme n'en a jamais fini avec son enfance. C'est, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des désirs, les plus vieux désirs, les désirs indestructibles, il pointe vers quelque chose qui est absolument indépassable dans l'existence humaine. Et plus on avance dans l'œuvre de Freud, plus on découvre que ce qu'il appelle l'inconscient est vraiment une terre inconnue. Ce n'est pas simplement une sorte de réceptacle de pensée qui manque simplement de la lumière de la conscience et qui doivent devenir conscientes après avoir été inconscientes, mais c'est vraiment autre chose. C'est l'autre région et qui parle autrement. Alors, l'homme est donc confronté par là à quelque chose qui restera finalement toujours sauvage, qui ne sera jamais parfaitement éduqué par la culture, et c'est pourquoi Freud, on peut dire qu'il professe un pessimisme culturel. Je ne crois pas que Freud assumerait, par exemple, les thèses de Marcuse, de Herbert Marcuse, qui pourtant se présente comme lui aussi un retour à Freud, lorsque il dit que la répression, ou en tout cas la surrépression, est liée aux sociétés industrielles modernes. Freud a des textes tout à fait explicites sur ce genre de problème. Et il ne pense pas qu'une société qui serait mieux aménagée au point de vue économique, moins injuste, résoudrait le problème fondamental de l'existence humaine, qui est la résistance à la culture, pas du fond pulsionnel de l'homme. Alors, en ce sens, il y a un pessimisme de Freud. Seulement, d'autre part, la psychanalyse ne serait pas possible elle-même si elle ne reposait pas sur la conviction que un certain interventionnisme est possible dans cette situation-là. Seulement, c'est justement un interventionnisme tout à fait différent de celui du moraliste ou de l'éducateur. C'est l'intervention de la lucidité. Et c'est pourquoi Freud n'est pas un moraliste. Il n'est ni pour ni contre la morale, mais il nous amène à comprendre la situation exacte dans laquelle nous sommes. Et en ce sens, si j'avais à le rapprocher d'un grand philosophe que j'ai nommé, je crois, de la dernière fois, ce serait de Spinoza. C'est en comprenant par la lucidité intellectuelle, par la conquête même de la raison, ce que c'est que cette terre inconnue et la reconnaître comme inconnue, alors le pouvoir de nous supporter nous-mêmes peut nous être rendu. Alors je crois que c'est ça la sagesse de Freud, qui en ce sens n'est pas pessimiste. Et puis son pessimisme, si vous voulez, porte sur la nature humaine, mais non pas sur l'entreprise même de la psychanalyse. Alors ça nous amènerait à un problème qui reste d'ailleurs non résolu, j'en suis convaincu, chez Freud, qui est le problème de la sublimation. Enfin, ce qu'il appelait la sublimation, c'est-à-dire le contraire du refoulement. Une sorte de changement profond du régime pulsionnel de l'homme par lequel la pulsion aurait à la fois une heureuse expression et en même temps serait compatible avec une vie de culture. Je ne pense pas que Freud ait vu cette sublimation ailleurs que dans la science. Pour lui, c'est le savant qui sans doute est le seul qui a suffisamment maîtrisé ses pulsions, au moins dans le domaine qu'il étudie, pour atteindre à une certaine région de pacification et de réconciliation. Et viendrait juste après la science, l'art. Certainement, l'art lui paraît une sorte de compromis. Si vous voulez, disons dans le langage de tout à l'heure, un compromis entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Mais pour tous les autres aspects de la culture, ils pensent qu'ils sont profondément pris dans les conflits fondamentaux de la pulsion et de la culture.
Effectivement, dans la cure psychanalytique elle-même, nous nous heurtons constamment dans notre pratique à cet automatisme de répétition. Mais s'il n'y avait pas une possibilité d'en sortir, il n'y aurait pas de cure possible. Et justement, c'est une des issues de la cure que d'arriver à une certaine sublimation. Et je pense que la philosophie de Freud est une philosophie de la lucidité et du courage. Courage de voir clair en soi, courage d'accepter, courage de renoncer. Mais il me semble toutefois que si la science a une place élue dans la philosophie de Freud, l'art en a une également. Car s'il réduit beaucoup de phénomènes culturels, la religion par exemple, il semble que Freud ne réduise pas l'art à une simple transformation des pulsions. Il semble qu'il y ait autre chose. Est-ce que cela ne se situe pas sur un plan philosophique, justement?
Je pense qu'il a vu dans certaines expressions de l'art autre chose précisément qu'une illusion, qu'une façon de nous cacher le sens profond de nos pulsions, mais une recréation. C'est précisément dans le très beau texte que je lisais la dernière fois de Léonard de Vinci que Freud est allé le plus loin dans ce sens lorsque, méditant sur la Joconde et sur le tableau de Léonard de Vinci, la Sainte-Anne, il a vu autre chose que la répétition du fantasme de Léonard de Vinci poursuivant quelque part la mer oubliée. La peinture en elle-même n'est pas la simple répétition du fantasme. C'est une façon de recréer le fantasme pour en faire une œuvre d'art. Alors que le fantasme est une sorte de produit perdu du rêve individuel, l'œuvre d'art est un nouvel objet parmi les hommes qui va susciter la communication, la contemplation et aussi une nouvelle manière de se voir soi-même. Par conséquent, l'art produit et crée quelque chose. Alors, elle le crée avec des pulsions, avec des fantasmes. Certes, c'est cela, on peut dire, le matériau premier de l'art, et en ce sens, il y a une théorie psychanalytique de l'art. Seulement, l'art est à la fois le processus de la résurgence, du retour du refoulé, comme il dira à propos d'autres phénomènes de culture, mais en même temps que c'est le retour du refoulé, c'est la recréation de ce refoulé dans une autre dimension, qui est une dimension, justement, de culture qui ne va plus se présenter comme un facteur de répression, mais précisément comme un facteur de sublimation. Il y a donc là, à partir de la science d'une part, de l'art d'autre part, l'esquisse d'une philosophie de la sublimation qui ferait contrepoids, en somme, à ce thème pessimiste que nous disions tout à l'heure, celui de la répétition.